RFI, grand reportage. Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Il y a 10 ans, éclatait aux États-Unis la crise des subprimes, ces crédits immobiliers ultra risqués accordés aux ménages précaires. Une crise qui plonge le pays dans la récession. 10 millions d'Américains perdront leur maison, 8 millions leur emploi. Lehman Brothers, icône de Wall Street, tombe le 15 septembre et entraîne avec elle d'autres grandes institutions financières renflouées in extremis par le gouvernement américain. Hier, grand reportage a expliqué les origines de cette crise et ses conséquences. Aujourd'hui, nous voyons comment l'économie américaine s'en est sortie. 10 ans après les subprimes, comment Wall Street s'est relevée. Un grand reportage à New York d'Ariane Gaffuri.
Après, les militants d'Occupy Wall Street, Occupons Wall Street, sont toujours mobilisés contre les abus du capitalisme financier. Depuis le choc de 2008, de nombreux rassemblements dans les rues de New York.
Un enfant sur 7 aux États-Unis souffre de la faim. Et pendant ce temps, on donne des milliards de dollars pour sauver Wall Street. Il faut que ça change.
La crise de 2008, Georges Hugeux, né en Belgique et devenu américain, s'en souvient. Il était vice-président de la Bourse de New York.
Je me suis dit que j'avais des doutes sur certains comportements en matière de finances, mais que je n'avais pas cru que c'était aussi grave. Nous étions dans une situation où, fondamentalement, la finance avait trahi l'économie et la société, et qu'il était indispensable de remettre les pendules à l'heure.
Georges Hugeux multiplie les interventions. Il est l'auteur d'un ouvrage à charge, La trahison de la finance, 12 réformes pour restaurer la confiance.
Nous avons vécu une période pendant laquelle on a transformé le système bancaire qui faisait des prêts en un système de distribution de ces prêts sur les marchés avec une collusion avec les agences de crédit, et les banques ont abandonné leur discipline d'évaluation de la qualité des crédits, et ils se sont contentés de se dire, du moment que ça se place, je fais. Et donc ils ont abandonné leur responsabilité. Comme en plus ça permettait de gagner de l'argent tout de suite, il est évident que l'appât du gain jouait un rôle considérable.
Depuis, les États-Unis ont tourné la page de la Grande Récession en référence à la Grande Dépression de 1929. Mais à quel prix ? Flambée de la dette, explosion du chômage et mise sous perfusion par l'État des principales banques et institutions financières. Richard Silla, 78 ans, est professeur d'économie à l'Université de New York. Nous nous donnons rendez-vous dans un lieu chargé d'histoire. Signe de reconnaissance, un chapeau de paille avec un ruban bleu.
Oui, on se rencontre à l'intersection de Broad Street et de Wall Street. De ce côté, vous avez la Bourse de New York. Et là, nous sommes devant Federal Hall. C'est là que George Washington a prêté serment pour devenir le premier président des États-Unis en avril 1789. Et ici, c'était la sous-trésorerie où on stockait l'or. And inside of it, our vaults
where gold was stored. Richard, c'est là des millions d'Américains ont perdu leur maison, leur travail, leurs économies. Millions of Americans lost their homes, their jobs.
Well, there were foreclosures on a lot of homes.
Oui, il y a eu beaucoup de saisies immobilières. Beaucoup de gens vivaient dans des maisons qu'ils n'auraient jamais dû acheter. Et quand ils se sont retrouvés dans l'incapacité de payer leurs mensualités, les banques ont racheté les maisons pour un prix très bas. Les banques ont perdu de l'argent, les propriétaires ont perdu ce qu'ils ont payé. Les marchés se sont effondrés, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. L'économie est tombée en récession. Aux États-Unis, le taux de chômage est monté à 10% en 2009. Depuis, l'économie américaine a connu une croissance de seulement 1,5-2% par an. C'est un taux moins élevé qu'avant, donc la reprise est faible. Le taux de chômage est de 4% aujourd'hui. On considère que c'est le plein emploi, mais les salaires n'ont pas augmenté. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu leur travail, n'ont pas complètement remonté la pente. Mais l'économie américaine semble s'être améliorée.
Richard Silla, a lot of people made a lot of money out of the subprime crisis. They're doing well today. Richard Silla, beaucoup de personnes se sont fait de l'argent pendant la crise. Elles ont quitté les banques, par exemple, avec de belles enveloppes. Qu'est-ce que vous en pensez sur le plan éthique?
Eh bien, ceux qui ont vraiment profité de la crise de 2007-2008 sont ceux qui l'ont vu venir. Ils sont sortis du marché des subprimes et ont trouvé le moyen de parier contre ces prêts hypothécaires. Et quand ces titres se sont effondrés, ils ont fait beaucoup d'argent. On en a fait des films comme The Big Short, le casse du siècle.
The whole housing market is propped up on these bad loans.
Beaucoup de gens disent « les banquiers n'ont pas été punis alors qu'ils ont commis des erreurs ». C'est probablement vrai. On peut blâmer les banques, mais on peut blâmer aussi le gouvernement qui a encouragé leur comportement. Je pense que globalement, peu de gens ont anticipé cette crise et qu'on a assez blâmé comme ça.
Ils vont réussir. C'est un
temps. Vous n'êtes pas allergique aux chats ?
Non, j'adore les chats.
Ah bon ?
Cheveux blonds, courts, élégantes, Kathleen Stephenson est économiste indépendante. Cette belgo-norvégienne nous accueille chez elle à Manhattan. Elle a été licenciée pendant la crise.
Oh, il est beau. À l'époque, j'étais directeur de la recherche économique internationale au Crédit Suisse, ici à New York. Et au moment où la crise s'est vraiment développée, pas seulement le Crédit Suisse, mais beaucoup de banques d'investissement ont réagi vite et de manière agressive. Cela veut dire coupure des coûts et bien sûr licenciement en masse. Ça m'a affecté personnellement dans la mesure où mon équipe aussi a été licenciée. Bien sûr, rechercher une position n'était pas facile à l'époque parce que je n'étais pas la seule. Ceci dit, j'ai eu la possibilité de travailler pour une petite entreprise financière. Et puis très vite, la compagnie AIG m'a recrutée.
En 2010, donc c'est après la crise bancaire, à cette époque, AIG, American International Group, a été sauvée par le gouvernement pour éviter qu'il fasse faillite.
AIG est énorme, c'est une compagnie d'assurance. D'abord, j'ai appris l'industrie de l'assurance et ensuite, j'ai pu faire partie de cette reconstruction d'une entreprise et le repaiement des fonds que le gouvernement américain avait octroyés à cette compagnie.
Au total, ce sont 180 milliards de dollars qu'AIG a remboursé à l'État. Le géant américain de l'assurance a été contraint d'adopter de nouvelles régulations. Même chose pour les banques d'investissement. Too big to fail. Trop grande pour faire faillite. Comme Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch. Aujourd'hui, elles doivent détenir des fonds propres pour résister à un choc financier. C'est la fameuse loi Dodd-Frank, mise en place par l'administration Obama.
Il n'y aura plus de sauvetage des banques par le contribuable. Si une grande institution financière fait faillite, avec cette réforme, elle ne mettra plus en danger toute l'économie.
Dennis Lockhart est l'ancien président de la Réserve fédérale à Atlanta, en Géorgie. Nous le contactons par téléphone.
La loi Dodd-Frank et les nouvelles régulations post-crise et post-récession ont été efficaces. Les institutions financières et particulièrement les banques ont appris à gérer les risques comme elles auraient toujours dû le faire. Elles ont appris de force car elles ont été obligées de passer des tests de résistance. Elles doivent aussi avoir un coussin de liquidité, etc. Et elles sont prudentes maintenant, même si elles n'ont pas le régulateur sur le dos. Et depuis, nous n'avons plus de problèmes systémiques. Il faut toujours rester vigilant. Car il y a des choses inquiétantes qui se passent en ce moment, mais cela fait des années, presque 10 ans, que les marchés financiers fonctionnent bien et ne sont plus dangereux. C'est un des bénéfices de la période Dodd-Frank.
Vous êtes la Réserve fédérale et le rêve américain a été mis à rude épreuve. Vous étiez au centre de cela. Comment l'avez-vous vécu ? Est-ce que parmi vos amis, certains vous ont tourné le dos ?
First, the Federal Reserve was met with quite a bit of hostility.
D'abord, il y a eu beaucoup d'hostilité envers la Fed et j'allais à mes réunions ou à différentes conférences dans le sud-est des États-Unis, ma région, et je ressentais cette suspicion envers la Fed et le système bancaire. Mais pour relativiser, dans ma vie, j'ai été au Liban et évacué de ce pays en 1975 lors de la guerre civile. Ensuite, je suis allé en Iran et j'ai dû partir à cause de la révolution. Alors quand j'ai dit à mes amis que j'intégrais la Fed juste avant que la crise n'éclate, ils se sont moqués du fait qu'à chaque fois que je vais quelque part, tout s'écroule. Sérieusement, c'était une période de grande tension et j'ai été écarté un moment du centre des décisions. Elles étaient prises à Washington par Ben Bernanke, président de la Fed, Tim Geithner, président de la Fed à New York, et Henry Paulson, le secrétaire au Trésor, mais j'ai ressenti le stress de cette période.
We all got to die. But some people got to suffer before they die.
En 2008, les États-Unis ont sauvé en les nationalisant Fannie Mae et Freddie Mac. 90% des emprunts sont garantis par ces deux mastodontes du refinancement hypothécaire. Ils ne prêtent pas directement. Ils garantissent ou rachètent les emprunts aux banques et aux autres organismes de crédit. Frank Northaft était chef économiste chez Freddie Mac au plus fort de la crise.
Avec le recul, il y a beaucoup de choses que Freddie Mac aurait dû faire différemment. On aurait dû rester concentré sur les crédits sûrs et s'assurer que les emprunteurs étaient solvables. Plus de 10 millions de propriétaires ont perdu leur maison entre 2006 et 2016. C'est énorme. Cette crise m'a beaucoup affecté, moi et mes collègues, parce que nous avions une mission, fournir un flux de fonds stable pour les emprunteurs, et nous avons échoué dans cette mission.
Stay true to our mission once we were taken over by the government. Many employees.
Quand nous avons été nationalisés, beaucoup d'entre nous sommes restés. On a collaboré avec le Trésor américain et le régulateur, la Federal Housing Finance Agency, pour redresser la barre. On a lancé deux programmes qui ont permis la modification ou le refinancement des prêts hypothécaires risqués qui ont mis nos emprunteurs en difficulté. Aujourd'hui, le nombre de saisies aux États-Unis a beaucoup diminué. Le taux est de 1%, c'est-à-dire son niveau d'avant-crise. The same level that they were
pre-crisis. Depuis, Freddie Mac et Fannie Mae ont remboursé à l'État l'aide de 187 milliards de dollars. Ils lui rapportent même tous les ans des milliards de dollars de dividendes. En revanche, pour de nombreux propriétaires, les problèmes sont loin d'être résolus. Jacob Inwald est avocat pour l'organisation publique Legal Services à New York.
By the middle of the foreclosure crisis, there was a point where there were about 95,000.
En pleine crise financière, il y a eu jusqu'à 95 000 cas de saisies immobilières dans l'État de New York. C'est ahurissant. Et aujourd'hui, même s'il y en a moins, il reste encore 75 000 cas en attente de jugement. Les personnes de couleur, les Noirs et les Latino-Américains ont été la cible des prêts les plus toxiques du marché parce qu'ils sont vulnérables.
Targeted for some of the worst toxic loan products. New York has responded by changing some of the laws.
Depuis, des lois ont été votées à New York pour protéger ses propriétaires et encourager les accords à l'amiable. Le tribunal a créé une procédure de règlement des différends pour rassembler les parties adverses et au lieu que la banque ne saisisse un bien, on essaye, par exemple, d'obtenir une baisse du montant du remboursement mensuel et de rallonger la durée de l'emprunt. Mais parvenir à un tel accord est un combat long et fastidieux. Nous, on considère qu'on est toujours en pleine crise parce que nous avons un nombre de saisies record comparable à ce que nous avons connu lors de la Grande Dépression des années 1930.
La loi Dodd-Frank est un désastre, on va lui faire la peau. C'est en ces termes que Donald Trump annonce en janvier 2018 le démantèlement partiel des régulations bancaires. Régulations qui, selon lui, empêchent les banques de prêter et donc les entreprises de se développer. Jacob Inwald est inquiet.
La loi Dodd-Frank a promulgué de nombreuses législations qui ont limité les abus du système financier. Et une agence, le Consumer Financial Protection Bureau, a été créée pour protéger les consommateurs lors des transactions financières. Cette agence est en danger sous l'actuel gouvernement. Il y a une grande inquiétude car la nouvelle gouvernance ne soutient pas cette mission de protection des consommateurs. Elle préfère rendre la vie des institutions financières plus facile et moins contraignante.
La ligne 6 du métro de New York, le plus grand du monde, 800 km de voie au total. Cette ligne nous amène à Wall Street où on retrouve Richard Silla, économiste à l'Université de New York. craint-il la remise en cause des régulations bancaires?
La réaction à la grande récession de 2009 est la même que lors de la grande dépression des années 1930. Les banques ont fait des erreurs, alors on renforce les contrôles. Mais les plus dangereuses sont les banques d'importance systémique, les SIFIs comme on dit. Ce sont elles qui se sont mises dans le pétrin et ont empiré les choses. Mais il y a 5000 banques aux États-Unis et les petites ont dû appliquer ces régulations sans raison valable. Aujourd'hui, le système financier s'est bien remis de la crise. Donc la révision de la loi Dodd-Frank est positive, je pense.
La bonne humeur du liftier de ce bel immeuble de la 86e rue au nord-est de Manhattan, c'est là qu'habite David Moonves, 15 ans chez Standard & Poor's, 10 ans chez Lehman Brothers qu'il a quitté avant la crise, plusieurs années chez Moody's. Alors, quelles leçons ont été retenues de cette crise ?
Lessons have been learned and lessons are forgotten. There was a well-known book that came out recently about financial crises said.
Les leçons ont été apprises et elles ont été oubliées. Il y a un livre qui est sorti récemment, son titre c'est L'expression la plus dangereuse en finance, c'est cette fois c'est différent. Les crises se reproduisent et le fait qu'aux États-Unis, il y a une récession tous les 10 ans, ça montre bien que les leçons n'ont pas été totalement retenues.
In some ways, the behavior of the financial markets.
Ceci dit, aujourd'hui, le comportement des marchés financiers a changé. Et les anciennes méthodes sont abandonnées. Presque tous les prêts immobiliers sont de bonne qualité, à tel point qu'ils sont garantis par le gouvernement fédéral. Il n'y a plus de marché des subprimes, et c'est l'héritage de la crise financière.
Si la crise des subprimes semble contenue, les États-Unis ne sont pas pour autant à l'abri d'un autre drame financier. Patrick Healy, la quarantaine, fondateur du cabinet de conseil Caliber Finance Partners.
I very much do believe that the student loan industry is a potential crisis in our country. You're seeing a lot of parallels, right? Back in.
Je pense très sincèrement que la dette étudiante sera la prochaine crise parce qu'il y a des parallèles entre les prêts étudiants et les subprimes immobiliers. Avant que la crise n'éclate, le gouvernement américain a poussé les gens à emprunter sans s'assurer qu'ils étaient solvables. Et quand la bulle immobilière a éclaté, les gens n'ont pas pu rembourser leurs prêts. Leur maison a été saisie, les banques ont fait faillite et cela a créé un énorme cataclysme financier.
And I could see similar things working here with student loans. The difference being, at least with.
Je vois le même mécanisme en marche avec la dette étudiante. À la différence qu'avec un prêt hypothécaire, vous possédez un bien tangible, mais avec un prêt étudiant, vous empruntez en fonction de votre capacité future à rembourser. Et si votre métier ne rapporte pas assez d'argent, vous ne pourrez pas rembourser votre emprunt. Une université privée aux États-Unis peut coûter jusqu'à 70 000 dollars par an. C'est une dette très lourde pour un jeune entre 18 et 21 ans.
US per year and quite a bit of it may be financed through student debt. That's a big number for somebody that is 18 to 21 years old.
The tuition when I started was.
Les frais de scolarité au début étaient de 34 000 dollars par an et chaque année ils augmentaient. J'étais dans une école d'art privée et je pensais savoir dans quoi je m'étais engagée. Mais en fait non, je n'imaginais pas que ce serait si dur.
How severe it would be.
Tara, 25 ans, une Américaine d'origine mexicaine, a dû prendre 10 prêts différents pour financer ses études.
There's the idea of having this debt that's so enormous that.
L'idée même d'avoir une dette aussi énorme, c'est juste impossible à intégrer. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, je travaille dans un restaurant et je suis illustratrice freelance. Mon emprunt court sur 25 ans, jusqu'à mes 54
ans.
Je ne peux pas me projeter dans l'avenir, imaginer acheter une maison, une voiture, même fonder une famille. Et c'est la même chose pour tant de jeunes de ma génération. On est dans une prison de dette qui réduit nos possibilités.
Of what's going to happen, and it's horrible.
C'est horrible.
Dix ans après la crise des subprimes, comment Wall Street s'est relevé, un grand reportage d'Ariane Gaffuri, réalisation Pierre Chaffanjon.
Stand tall for the beast of America. Lay down like a naked dead body. Keep it real for the people working overtime. They can't stay living off the government's dime. Stand tall for the people of America. Stand tall for the man next door.
We are free in the land of America. We ain't going down like this. Come on now.